France Musique.
Bonjour à tous et heureux de vous accompagner chaque matin de 11h à 12h pour ce que je nommerai une autre histoire de la musique. Alors hier, j'avais donné comme titre à l'émission « Musique et temps ». Et du temps, il nous en manque toujours pour diffuser ce que nous aimerions vous faire entendre. Alors aujourd'hui, comme un résumé de l'émission d'hier et pour ouvrir notre émission, je voudrais vous faire écouter une courte pièce infiniment belle de Jan Hatschek, une pièce pour piano du cycle « Sur un sentier broussailleux » ou « Recouvert » selon les traductions. Mais le titre de Jan Hatschek, il faut le lire jusqu'au bout, « Sur un sentier broussailleux, virgule, effacé par le temps ». Tel est le vrai titre de ce cycle. Hier, j'avais commencé l'émission avec « Gute Nacht » de Schubert. Voici « Bonne nuit » de Jan Hatschek. Bonne nuit, la musique de Jan Hatschek par le regretté Lars Vogt. Aujourd'hui, le thème de notre émission sera « Musique et mouvement ». Vous pouvez écrire « et » « et » ou « et » « est ». En tout cas, la musique, cet art du temps, fuit, coule, part, court et bouge. Extrait de Message esquisse de Pierre Boulez, l'ensemble de violoncelle de Paris avec Jean-Guyenne Queyras. L'histoire de la musique, surtout depuis le XXe siècle, se fait aussi avec et par les interprètes. Ils nous laissent des textes qui apportent autant aux créateurs qu'aux musicologues, qu'aux auditeurs bien sûr. Et ils nous donnent, je trouve, une histoire du sensible de la musique. J'évoquais hier le beau texte de Jan Bostridge sur Schubert. Aujourd'hui, c'est une claveciniste qui sera à l'honneur, Blandine Verlet. Irremplaçable Blandine Verlet, poète du clavecin et des mots. Et s'il faut commencer l'histoire du mouvement en musique, il faut peut-être commencer justement par le baroque. Difficile d'évoquer l'âge baroque, âge du mouvement, de l'illusion, de l'éphémère, sans songer aux nuages, écrit-elle. Les nuages, les merveilleux nuages, s'accouplent, se fondent, se dissolvent dans des mouvements qui balayent les dissemblances. Leur douceur ou leur changement d'humeur brusque se déploie librement, inchangé peut-être, sur la grande page lisse de l'infiniment bleu. Leurs errances sombres dans le nuancier des anthracites, leur légèreté nous offrant toutes les qualités de blanc. Il nous semble, en les contemplant, entendre les agglomérats ou les errances des préludes de Louis Couperin. Il inventa cette écriture neigeuse si habile à capter les échappées du mouvement, la dérive du temps, de la raison, des sentiments. Ce sont des nuages pour Blandine Verlet, ces préludes de Louis Couperin, des formes qui bougent à peine, c'est ce qu'elle écrit dans son texte « L'offrande musicale ». Et si vous regardez la partition de Couperin, 100 barres de mesure, ce sont de grands nuages en noir et blanc. Debussy, avec sa pièce pour orchestre, va ajouter peut-être la couleur dans ces nuages qui ne bougent presque pas, cette immobilité fascinante qui est mouvement. sans doute l'une des partitions les plus fascinantes de Debussy, un traité d'orchestration à elle seule, extraite des Nocturnes Nuages, le Cleveland Orchestra sous la direction ici de Laurine Mazel. Je reviens à Blandine Verlet, claveciniste géniale. Elle fut entre autres le professeur de Jean Rondeau, qui a bien retenu la leçon de poésie. Elle est morte le 30 décembre 2018. Et à propos de Louis Couperin, elle dit « Il est au clavecin ce que Chopin et Debussy sont au piano ». Debussy, qui passe de l'immobilité la plus éthérée avec ses nuages aux mouvements les plus saccadés avec ses images pour piano. Ici, la version d'un pianiste que l'on ne diffuse pas souvent, Eugène Ingic, pianiste de mon enfance. Allez savoir pourquoi, et je ne le sais pas, il venait souvent jouer à Laval, en Mayenne, d'où je suis originaire. Et j'ai donc très régulièrement entendu Eugène Ingic à la fin des années 90, élève d'Arthur Rubinstein, de Nadia Boulanger, qui a joué sous la direction des plus grands. Il a même eu un Grand Prix Chopin en 1970. Mouvement, c'est le titre de notre émission, mais c'est aussi le titre d'une pièce de Debussy interprétée ici par Eugène Ingic. J'ai souvent entendu Eugène Ingic en concert, mais je n'ai entendu qu'une seule fois Blandine Verlet. C'était à la Folle Journée de Nantes. Peu de temps après la publication de son livre, d'ailleurs, elle semblait un peu perdue. Je pense que la foule et le concept de la Folle Journée n'étaient pas vraiment adaptés à son caractère sauvage. Et je me souviens qu'elle était arrivée dans la salle en même temps que le public et s'était assise au clavecin en attendant que chacun trouve sa place. Une belle façon, finalement, d'éviter les applaudissements du début. On parle de mouvement aujourd'hui. La voici à nouveau dans Couperin, le mouvement, celui de la chaconne, un mouvement répétitif, obsédant. La chaconne de la suite en Fa majeur de Couperin par Blandine Verlet. La basse structure donne le mouvement imperturbable, elle se répète, elle nous entête. C'est sans doute pour ça d'ailleurs que les chaconnes ont beaucoup de succès auprès du public. Il suffit ensuite de varier à partir de cette basse. Et puisque je parle d'artistes rares, loin des médias, Eugène Ingic, Blandine Verlet, et puisque je parle de Couperin, eh bien voici un disque qui a une place spéciale dans ma discothèque, celui du pianiste Pierre Chalmeau. Il a fait entrer la poésie et l'univers de Louis Couperin au piano et il a retrouvé, inventé, renommé des suites, par exemple la suite Elias, en hommage à la disparition de son professeur de piano, Edson Elias, la suite du tombeau avec une sublime chaconne, encore une chaconne, à nouveau une chaconne, Pierre Chalmeau au piano. Et c'est, je crois, à son jour, son unique disque. Alors s'il ne devait avoir publié que celui-là, qu'il soit grandement remercié, car on l'écoute souvent. La chaconne en ré mineur de Couperin par le pianiste Pierre Chalmeau.
France Musique, été classique, Rodolphe Bruno Boulmier.
Puisqu'on parle de mouvement, de Couperin, voici un autre Couperin, pas Louis, mais François. Comme vous ne l'avez jamais entendu, un tour de passe-passe grâce au compositeur Thomas Hadès qui s'est amusé avec cette musique. Il y restitue le mouvement et l'humour. Tour de passe-passe, la musique de Thomas Hadès, l'orchestre de chambre d'Europe sous la direction du compositeur. On a entendu tout à l'heure « Mouvement » de Claude Debussy. Voici maintenant une autre partition qui s'intitule tout simplement « Mouvement » ou plus précisément « Quatre mouvements ». Elle est signée Philippe Glass, compositeur qu'il est de bon ton de ne pas trop aimer. Et pourtant, quand c'est joué avec une telle fougue, une telle énergie, le mouvement justement dépasse la musique. Il vous emporte, il vous soulève. Avec lui, la musique est mouvement. Avec les sœurs Labec aussi.
Thank you.
le quatrième mouvement de Philippe Glass par Katia et Marielle Labeck. Je reviens à l'offrande musicale, le beau texte de Blandine Verlet, un texte comme on les aime, inclassable, ni essai musicologique, ni récit, mais une sorte de long poème qui embrasse le vécu, le quotidien et le savoir. Ce livre, donc, a été publié par Desclée de Brouwer, et dans ma bibliothèque, il est à côté d'un autre, on pourrait dire son frère, chez le même éditeur, L'éloquence des larmes de Jean-Loup Charvet. Jean-Loup Charvet était autre conte, peut-être que certains d'entre vous se souviennent de ce musicien, élève de James Bowman. Il a écrit donc un très beau livre, lui aussi. Et là, il est question également de mouvement, le mouvement d'une larme qui coule et qui s'écoule. On n'analyse pas, on ne démontre pas, on ne pense pas une larme, écrit-il, on la peint, on la soupire, on la contemple. La contemplation est peut-être même la seule attitude raisonnable pour celui qui s'intéresse aux larmes, qu'il soit sémiologue, historien ou philosophe. Les larmes se contentent de nous subjuguer en s'écoulant dans la lumière.
Where does God burn?
La musique de John Dowland par Jean-Loup Charvet et l'ensemble Les Passions de l'âme. Éloquence des larmes, c'est le titre de son livre, comme une éloquence du mouvement. Et il rapproche dans son livre quelques citations qui dialoguent entre elles. « Mais vous pleurez, Milord ?» dit Edith Piaf. « Oui, madame, je pleure, je soupire, je frémis. » Jean Racine, Bérénice. Et voici Mozart, comme souvent, dès qu'il faut parler des passions humaines. Mozart a écrit deux de ses plus beaux airs de ténor pour un homme qui pleure, pour un amant qui cherche à consoler. Don Ottavio implore Donna Anna de sécher ses larmes. Juan Diego Flores, ici extrait de Don Giovanni de Mozart, l'acte 2. Et Jean-Loup Charvet, dans son livre « L'éloquence des larmes », nous dit « Les larmes sont la partie visible de son désir. On a même prétendu son rôle inutile dramatiquement. Ottavio offre dans cet opéra, où tout le monde s'agite, un instant de béatitude amoureuse, d'immobilité gracieuse. Après que les catalogues se sont dépliés, ses larmes coulent. » L'immobilité gracieuse, sous l'éloquence et le mouvement des larmes, voilà une formule assez belle pour décrire la musique de Mozart, et décidément, cette musique est véritablement une histoire du mouvement. Juan Diego Flores est ici, Don Ottavio, dans ce Don Giovanni de Mozart. Merci à Anne-Lise Assada qui a réalisé cette émission avec Jean-Louis Deloncle. On se retrouve demain et vous écoutez France Musique. Belle journée.
À réécouter sur francemusique.fr.